la meuf, elle tape des vocalises tout en ridant une baleine volante. Moi, je dis respect.
Y a pas besoin d'artifice quand on est une vraie chanteuse. Toutes ces bêtises digitales, c'est de la poudre aux yeux.
Digital ? Parce que pour toi, Belle, c'est pas une vraie chanteuse. C'est quoi alors ? C'est une conseillère d'orientation ?
C'est surtout une bimbo maquillée comme une voiture volée. Il suffisait d'un simple micro à Edith Piaf pour fasciner son public.
Écoute, je connais pas ta Judith Piaf là. Tu parles d'une chanteuse ou d'un prêtre qui fait un sermon ? Bonjour l'ambiance de folie.
Manque flagrant de culture et blasphème. Tu réciteras deux Notre Père et trois Je vous salue Marie pour te faire pardonner.
C'est ça, c'est ça. T'as plus de chances de me voir chanter Alexandrie, Alexandra, sur le dos d'une baleine de l'espace, mon gars.
Je prendrai des places au premier rang pour rien louper.
Le samouraï et la soubrette. Shambhala!
Bonjour, bonsoir à toutes et tous dans cette nouvelle édition du format
Shambhala,
celui-là même. Et donc cette fois-ci, nous allons vous parler d'un long métrage qui est sorti, mais finalement il n'y a pas si longtemps, par chez nous. Il s'agit donc de Belle, du réalisateur Mamoru Hosoda. Belle qui est sortie à l'origine en juillet 2021 au Japon ainsi qu'en France au Festival de Cannes, dont nous allons reparler assez rapidement, est sortie donc en salle en France en décembre 2021, même si nous l'avons vu en novembre dans le cadre d'une avant-première lors du festival de l'animation japonaise qui a eu lieu au cinéma Le Scénario à Saint-Prié, au sud de Lyon.
L'excellent festival animation, voilà. D'ailleurs, petite dédicace à Jérémy.
Tu entendras de nos nouvelles très bientôt.
De toute façon, on viendra à ton festival quoi qu'il en soit.
Assurément. Belle, c'est donc un long métrage de Mamoru Hosoda qui nous raconte donc assez rapidement l'histoire d'une adolescente qui a subi un traumatisme. Elle adorait chanter et elle ne chante plus, c'est fini. Et il y a à la mode une espèce de monde virtuel parallèle au monde réel, une espèce de méta de Facebook, quoi.
Voilà, un réseau social en réalité virtuelle, oui.
Ouais, et qui a le vent en poupe et dans lequel elle se remet à chanter. C'est ça le speech sans spoiler du film. Xavier, pour l'instant, avant d'aborder les points positifs, négatifs, qu'est-ce que tu as pensé au global du film ?
Au global, j'ai trouvé que c'était un film assez intéressant à voir. En tout cas, je l'ai vu deux fois ce film. Une fois en VO avec toi et une fois en VF, une fois qu'il est sorti. En fin décembre, je crois que j'ai vu début janvier.
Et c'était forcément moins bien vu que j'étais pas là.
On va dire ça. c'est surtout l'absence de Patoche, salut à toi, qui m'a perturbé.
Vous voulez dire Luffy.
Ce cher Luffy. Bref, trêve de privé de joke. Belle, c'est un bon film. Il est dans la lignée de ce que fait Hosoda, c'est-à-dire essayer de se raconter des histoires de personnages qui essayent de surmonter leurs difficultés. Hein. On l'a vu, leurs difficultés existentielles ou leurs difficultés familiales. C'est ce qu'on a vu dans Le Garçon et la Bête, c'est ce qu'on a vu aussi dans Les Enfants Loups, Ame et Yuki. C'est ça, hein ?
Oui, Ame et Yuki, tout à fait.
Voilà,
Les Enfants Loups.
Les Enfants Loups. Donc c'est toujours le même style. Le même style, en tout cas en 2D, avec un apport cette fois-ci d'une 3D qu'on ne lui connaissait pas trop, même si on avait eu quelques incursions, notamment dans La Traversée du Temps, où il y a des séquences en 3D. Là, il y a quand même la moitié du film qui est faite en 3D, dans une 3D de bonne facture. J'imagine qu'on en reparlera un peu plus. Et j'ai trouvé que c'était un film, en tout cas, intéressant à voir, au moins d'un point de vue technique et d'un point de vue continuité de ce que fait Hosoda depuis le début de sa carrière. Et toi, Jean, t'en as pensé quoi globalement ?
Moi, à la base, le tout début, la communication autour du film, notamment les premières bandes annonces, le style graphique m'avait. J'avais eu un peu du mal au tout départ. C'est vrai que du coup, comme tu l'as dit, cette incursion de la 3D chez le réalisateur était. Elle était connue, mais beaucoup plus légère en termes de quantité. Donc j'avais eu un peu du mal au tout début avec les bandes annonces, surtout que l'aspect je fais des chansons me faisait peur, parce qu'il faut savoir que j'ai suis pas du tout comédie musicale. Je suis pas très difficile en termes de film au global. Mais quand ça chante, j'ai parfois un peu du mal. Ça peut être vrai du coup pour les comédies musicales pur jus, ou alors même des fois du Disney. Hein, je peux être allergique à certaines chansons parce que je trouve que c'est un peu trop forcé. Et du coup, j'y allais un peu à reculons. Peu avant la sortie donc du film, l'avant-première, je me suis réintéressé aux bandes-annonces récentes et finalement, en fait, j'ai trouvé qu'au contraire, visuellement, il était réussi. Ça s'est confirmé en salle sur la technique. C'était vraiment, vraiment très sympa à voir. Pour ce qui est des chansons, on va en reparler parce que j'ai des trucs à dire dessus. Donc au final, c'était une bonne surprise. Et ouais, je mentionne ça parce que justement, comme tu l'as dit, tout ce qui est thématique, propos, grosso modo, c'est dans la continuité de ce qu'on avait déjà vu avec le réalisateur. Donc ça ne m'a pas vraiment surpris. Je m'y attendais. Du coup, je propose qu'on attaque nos petits bémols et puis les points positifs. Commençons par ce qui va. Si tu devais garder un point positif pour ce film, lequel serait-ce ?
Eh bien, en fait, ce sera les personnages qui sont intégrés dans le monde réel. Soyons clairs, moi, j'ai le monde réel, entre guillemets, le monde qui est en tout cas représenté dans le film en animation 2D. Et qui est présenté comme le monde réel dans la diégèse du film. Pour le coup, j'ai trouvé que c'était du soda très bien construit et très bien amené. Tous les personnages en fait ont l'air sympathiques, on a envie d'en savoir plus sur eux. Que ça soit l'ami de l'héroïne un peu geek au caractère bien trempé, limite une mini manager avant l'heure.
Ouais, c'est son agent en fait.
Ouais,
hein.
C'est clair, c'est son agent, même si elle s'en défend, elle c'est complètement là-dedans. Ses camarades de classe, une fille populaire qui s'avère on va dire plus intéressante que ce qui
n'y paraît. Ouais.
Le maître du film, Kayakman, évidemment.
Voilà.
En gros, c'est il y a un gars qui vous verrez si vous voyez, je pense, de qui je parle si vous avez vu le film. C'est un personnage qui a un club de kayak et qui se promène, qui traverse le film. Limite sans trop savoir ce qui se passe.
Et toujours avec son kayak
sous
le bras.
Et ses rares apparitions sont des rayons de soleil, je trouve, dans le film. Même d'autres personnages secondaires. Il y a un petit groupe de mamies aussi qui intervient, qui est très cool. Même tu vois le personnage du père qui est assez absent. Effectivement, on aurait bien aimé en savoir un peu plus sur son point de vue par rapport au trauma de son enfant. Bref, voilà, que ça soit du côté humoristique ou du côté personnage, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça correspond en plus bien à l'ambiance du film. Voilà, je vais pas dire que c'est bémol, c'est que j'aurais encore voulu en savoir plus. Mais le film fait déjà 2 heures.
Oui, du coup, un spin-off sur Kayakman peut-être ?
Mais complètement, mais moi, une série de 26 épisodes, je prends quoi. Et toi, qu'est-ce qui t'a plu toi dans Belle ?
Eh ben, bien sûr, il y a pas mal de trucs en commun avec toi. Le point du coup que j'ai retenu pour vous en parler là ici au micro, c'est justement les scènes de concert. À la différence donc d'un Disney où les personnages sont en train de parler. Puis il y en a un qui fait la remarque à l'autre et puis ça lui donne une idée et puis il se dit si je me mettais à danser et à chanter alors que ça n'a rien à voir avec le film, et il se met à faire ça et c'est complètement forcé quoi. Un concert tout de suite ça paraît naturel puisque c'est dans la diégèse du film, c'est normal qu'il y ait des gens qui se mettent à chanter. J'ai trouvé qu'en fait c'était super intéressant parce que comme ça a lieu dans le monde virtuel, ça donne des libertés aux réalisateurs sur la mise en scène et la direction artistique, pardon, il y a des mots qui sont durs à dire des fois.
Tu veux couper, tu veux qu'on reprenne ?
Non, c'est bon. Ça m'arrive pas souvent, on pourra me pardonner ça. Oui, contrairement à toi, oui, je te vois lever les yeux.
J'aime pas beaucoup tes sous-entendus, je vais couper. T'as la chance que je fasse pas le montage.
La direction artistique, la mise en scène peuvent se permettre des petites folies, des petites libertés. C'était du coup vraiment, vraiment sympa, et notamment vers le début du film, on a du coup une séance de chansons ado de baleines volantes, comme on a pu le susurrer durant l'intro.
Excellente phase d'ailleurs.
C'était très très cool. Et du coup, j'étais là en mode c'est trop cool. Et du coup, je me suis surpris. C'était vraiment la bonne surprise du film. Bah, du coup, je pense qu'on peut faire la transition avec un truc qui est une moins bonne surprise.
Même le concert final hein, est vraiment très sympa à ce niveau-là, avec la participation du public et tout.
On va embrayer du coup sur ce qui va pas, parce que je pense que ça fait une bonne transition, puisque j'ai parlé de bonnes surprises. Il y a aussi des trucs où on n'est pas surpris du tout, parce qu'on connaît déjà.
Tu veux que j'y
vais ?
Ok, et bien moi, ça va être. Si j'ai beaucoup aimé la partie 2D, j'ai moins aimé la partie 3D, non pas par le côté technique, hein, parce que comme on l'a dit, techniquement, ça se tient très bien au côté 3D. C'est même entre guillemets assez. C'est assez surprenant, vu que les Japonais nous avaient pas habitués à avoir de la 3D de plutôt bonne qualité. Là, c'est vraiment c'est vraiment en termes de construction scénaristique où le monde en 3D ressemble plus à on va dire une excuse et à quelqu'un qui s'est dit j'ai un gros jouet avec de la 3D, je vais mettre des trucs dedans, mais qui a pas fait avancer vraiment son scénario là-dedans. Sans vraiment spoiler, on a des combats assez tape à l'œil, on a toute une section d'antagonistes qui sont présentés dans le monde virtuel. Et on a l'impression qu'ils ne sont là que pour faire des péripéties qui n'ont finalement pas beaucoup d'importance, vu que toutes les scènes clés, en dehors des concerts, elles sont dans le monde décrit en 2D. Et c'est juste, entre guillemets, une rallonge du film, et même de manière générale, ça fait, entre guillemets, la VR vue par des gens un petit peu anciens, vu que... pour moi c'est dommage d'avoir un monde virtuel où globalement c'est juste une grande ville de nuit avec des néons comme dans Blade Runner il y a 40 ans donc voilà quoi,
et dans Ghost in the Shell et dans Cyberpunk et dans plein d'autres œuvres du courant
quitte à faire de la VR ça aurait pu être quelque chose de beaucoup plus imaginatif,
diversifié, varié
Surtout quand en plus tu te dis au milieu de ma ville cyberpunk je vais refaire le château de la Bayabette, bon voilà pourquoi pas
voilà. Et alors du coup ça c'est une transition vers mon bémol à moi,
vas-y.
Belle et la Bête, en fait c'est le trop plein de thématiques. Ce film est une espèce de soupe dans laquelle ils ont voulu mettre beaucoup trop de légumes, donc déjà qu'avec 2-3 légumes c'est dégueulasse, quand t'en mets 5 ou 6 c'est encore bien.
On va se calmer monsieur Viandard,
pardon, excusez-moi. Il y a plein de trucs dedans qui sont tous intéressants en soi, mais le problème c'est que on n'a pas le temps de les introduire et de les développer suffisamment, et je pense qu'il aurait été plus intéressant d'en mettre moins et de les pousser plus loin, quitte à ce qu'il parle des trois autres dans un autre film, parce qu'on n'aurait pas été contre aller voir un autre film du même acabit. Si je devais donner des exemples, donc on a le trauma infantile, on en a déjà un petit peu parlé, il y a de la violence parentale, tu nous parlais de désinhibition via les réseaux sociaux. On a la valeur de l'anonymat aussi. Enfin, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Et du coup, il y a certains trucs dont on n'a rien à foutre, en fait, parce que ça débarque comme un cheveu sur la soupe. C'est expédié en 5 minutes. Et puis, merci, au revoir. Je pense que le principal dans le film, c'est le trauma infantile. Lui, à la limite, je pense que ça va, il n'est pas trop maltraité. Et je pense que le pire, c'est celui de la violence parentale, quoi. Ça sort de nulle part.
Ouais, je dirais aussi que le côté désinhibition via les réseaux, le fait de pouvoir lâcher des choses sur les réseaux que tu ne ferais pas dans la vie, est un petit peu abordé, mais de façon très gentille quand même.
Juste de quoi servir le propos, quoi.
C'est ça.
Juste ce qui nous arrange. Avant d'aborder notre mot de la fin là, il y a un petit truc dont on doit vous parler. C'est mentionné notamment sur la page Wikipédia du film. Ça nous a été mentionné aussi lors de l'avant-première qu'on a regardé au cinéma, le scénario. Apparemment, le film a fait l'objet d'une standing ovation de 14 minutes après sa diffusion au Festival de Cannes. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ?
C'est pas un mauvais film, hein, attention. Hein.
C'est un bon film.
C'est plutôt un bon film, mais par contre, pour moi, un quart d'heure de standing ovation pour ce film-là, c'est, je comprends pas en fait les critères qui ont amené les gens à, en tout cas les critiques à Cannes, à tellement aimer ce film, à part le fait que enfin ils voient de l'animation japonaise qu'ils n'en avaient pas vu depuis 30 ans.
Voilà, parce que je pense qu'ils ont jamais rien vu de long métrage d'animation japonaise, parce que alors par exemple j'aime pas Akira, mais enfin en voyant du Akira ou en voyant du Ghost in the Shell ou du Cowboy Bebop ou enfin
même en plus récent, Your Name mérite
oui,
beaucoup plus que ça.
Bien plus, ouais, on est d'accord.
Même chez Osoda, honnêtement, Ame Yuki est un film qui est bien plus intéressant que qui à mon avis est bien plus réussi et bien mieux construit que Belle.
Ouais, ou alors ce sont leurs critères qui posent problème. Est-ce que tu crois qu'il y a eu une standing ovation pour Le Mystère des Pingouins?
Je pense qu'en tout cas, alors s'il y a eu une standing ovation, ce serait plutôt pour
la censure, ouais, la version censurée.
Non, mais je dirais plutôt, allez, la baleine virtuelle mérite une standing ovation de un quart d'heure. Voilà. Mais bon, pour le reste, non.
Ok.
Tu veux conclure?
Vas-y, conclue.
Ok, ben en fait, pour moi, Osoda, en fait, il a livré un film solide. Hein. Parce que même si pour moi il reste inférieur à justement aux Enfants Loups, ça reste pour moi un de ses films les plus solides, au moins d'un point de vue technique et artistique. Pour le coup, il vaut le coup d'aller au cinéma pour le voir, vraiment. Par contre, il se perd dans sa volonté d'aborder trop de choses, quoi, comme tu le disais. Il finit par tout traiter de façon soit superficielle, soit maladroite. Il reste qu'il a, voilà, il a toujours ses qualités pour construire des personnages auxquels on veut s'attacher. On s'y perd au niveau histoire. Et puis, voilà, prochaine fois, limite, fait une série ou fait plusieurs volets de films. Mais rien qu'en deux heures, c'était ultra dense et finalement on en ressort le côté superficiel, c'est-à-dire le côté artistique.
Ouais, il aurait fallu écrémer un petit peu.
C'est ça.
Ok, très bien. Et ben, c'est ainsi que se termine cette nouvelle édition du format Shambhala. Petite note additionnelle technique, cet épisode vient de officiellement nous faire passer la barre des 10 heures de contenu audio enregistré et diffusé pour le podcast. Donc voilà, bravo à nous. Nous espérons que cet épisode vous a plu comme d'habitude. On a eu un petit moment d'absence pour des raisons de péripéties personnelles, dirons-nous. Mais on va vous bombarder de contenu là dans les semaines qui viennent, donc restez à l'écoute.
Stay awake.